Alors, en pensant à cette question que Saul a qualifiée d'innocente, je la suis, en pensant à cette question innocente posée dans le cadre de ce séminaire, je la suis, du verbe suivre.
Ah bah oui, non, mais c'est pour ça.
Et voilà.
Je la suis.
Je suis un âne aussi. Alors, qu'est-ce qu'un analysant ? J'ai pensé tout de suite comme ça, je me suis dit qu'au fond, c'est la position subjective qu'on aimerait voir majoritaire dans nos consultations. Hein, et que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et je dirais même qu'il me semble que depuis quelques années, c'est un petit peu plus difficile. Et que parmi le nombre de personnes qui viennent me consulter, la proportion d'analysants diminue. Et que parallèlement, le temps des entretiens préliminaires augmente forcément. Alors par moments, je me dis, bien écoute, il faut que tu fasses des efforts pour réussir à amener à la position analysante des gens, au fond, qui n'y sont pas prêts. Et pourtant, en écrivant ça, je me dis, mais non, il ne s'agit pas de faire des efforts, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Et là me vient une phrase de Freud, c'est une phrase de Lacan, à laquelle je pense souvent dans ces cas-là, « Rien ne sert de ramer quand la barque est sur le sable. » C'est d'Alphonse. Il dit de ramer là. Alors, par contre, faire des efforts, c'est ce qu'on fait quand on veut convaincre. Et vous connaissez la formule de Lacan, il ne faut pas convaincre. Le propre de la psychanalyse, c'est de ne pas vaincre, con ou pas. Donc ce qui fait l'analysant n'est pas de cet ordre. Et au fond, la première définition, la première façon plutôt que j'aurais de répondre à la question posée ce soir, ce serait une définition par la négative. L'analysant n'est pas un convaincu. Pourtant, l'analyste n'est pas pour rien dans cette affaire. Il faut bien qu'il y mette quelque chose. Quelque chose d'autre qu'un coup de rame quand la barque est sur la plage. Alors, qu'est-ce qu'il doit y mettre ? Pour essayer de répondre à cette question, ce qui m'est venu spontanément, c'est une vignette clinique. Une vignette clinique a été un moment assez mémorable pour moi, qui illustre l'émergence du sujet supposé savoir, avec cette dimension de surprise essentielle qui témoigne à mon sens que ça y est, on est embarqué et il n'y aura plus besoin de ramer comme un galérien pour que le bateau file en eau profonde. Juste un petit coup de rame et... Il s'agit d'un homme peu préparé à faire une analyse a priori, qui est venu me voir sur les conseils de sa compagne pour résoudre un problème d'identité. C'est-à-dire qu'il est divisé par rapport à l'image de son corps sexué. D'un côté, c'est quelqu'un qui assume des fonctions sociales très viriles, mais dans ses fantasmes et en privé, il se rêve en femme. Donc cette division le fait souffrir. Et il essaye dans un premier temps de comprendre ce qui s'est passé dans son histoire pour qu'il en soit arrivé là. Il s'historise donc, mais avec un peu de réticence, un peu de scepticisme, parce que dès que l'ombre d'une signification surgit qui pourrait expliquer le choix de son sexe, eh bien très vite, un autre élément lui vient, qui semble indiquer le contraire. Et au fond, je pense qu'il récuse l'idée même de choix du sexe, parce qu'il préfère penser que sa sexualité est déterminée par la chimie de ses hormones. Et cependant, un jour, il me confie qu'étant enfant, il ne se trouvait pas assez grand pour se mesurer aux autres garçons dans la cour de récréation, et que donc il se réfugiait dans des relations d'amitié avec les filles. Ce jour-là, j'ai souligné ce point qui me semblait important et qui se référait à quelque chose du réel de son corps. C'est un homme de petite taille. Eh bien, voilà que la séance suivante, il apporte un rêve. J'allais voir une femme gynécologue qui me faisait faire une analyse de sang. Et elle me communiquait les résultats en me disant « Vous manquez d'aluminium ». Je ne sais pas si, pour ceux qui sont médecins, il n'y a absolument pas d'aluminium dans le sang. Il vaut mieux pas. Donc ce jour-là, interpellé par l'apparent non-sens de ce rêve, il se livre à la tâche analysante et il s'interroge sur ce signifiant incongru de l'aluminium. Et là, je l'entends broder autour des trois premières lettres, en dépliant toutes les chaînes associatives. Hein ? L'alu, il faut le dire, fait partie de son environnement. Je ne peux pas vous en dire plus pour garder un peu quand même de privé au cas, mais c'est évident que l'alu fait partie de son environnement. Hein ? Mais ça ne lui suffit pas. Et alors, il intervertit les lettres et ça donne U-A-L, dont il remarque que c'est la fin de l'adjectif anglais « sexual » qui oriente ses recherches habituelles sur le web, parce qu'il cherche à savoir s'il y en a d'autres qui sont comme lui. Voilà. Et pendant qu'il déplie tout ça, je me demande pourquoi il a coupé ce mot en deux. Et pourquoi il cherche à me faire entendre préférentiellement ces trois premières lettres ? C'est alors que je m'aperçois qu'amputé de ces trois lettres, le signifiant se résume alors à minium. Mini-homme. Ce qui renvoyait à ce fait souligné dans la séance précédente qui ne lui avait pas tellement plu, à vrai dire. Et alors j'en suis saisi. Et je lui dis, au fond, dans votre rêve, on vous donne le résultat de votre analyse. Vous manquez d'alu, minium. Ce phénomène me saisit toujours quand il se produit. Qui parle dans cette interlocution ? Qui me fait entendre si subtilement ce message ? En écrivant sur cette séquence, et pressé par Claire Parada, qui me demandait un titre pour mon intervention, c'était la semaine dernière, ce qui est venu sous ma plume, c'est cette formule « Je ne te le fais pas dire, mais tu me l'as fait entendre ».« Je ne te le fais pas dire », c'est la formule minimale de l'intervention interprétative. Elle équivaut à « Tu l'as dit ». Et là, qu'en rajoute, c'est dans l'étourdi, que cette formule implique que cette chose pareille que tu viens de dire, je ne te l'ai par quiconque fait dire. Question lancinante, aussitôt soulevée, qui parle ? Ou bien encore, formulée autrement, le savoir qui ne se livre qu'à la méprise du sujet, c'était vraiment le cas, quel peut bien être le sujet à le savoir avant ? Là, c'est dans méprise du sujet, si vous pouvez savoir. Si l'analysant est celui en qui s'effectue la supposition de savoir, il n'en reste pas moins qu'il faut qu'il y ait eu quelque chose avant. Il faut qu'il y ait eu au départ une supposition qui vienne de l'analyste. C'est-à-dire, on suppose que celui qui vient nous consulter nous dit quelque chose au-delà de ses dits. Rien n'est possible sans cette supposition minimale. Et la chose est particulièrement nette dans la cure avec un enfant. À ce propos, j'ai trouvé que c'était très intéressant que Frédéric Payon traite lors de votre première séance de la question « Qu'est-ce qu'un analysant ?» qu'il traite la question à partir de son expérience de psychanalyse avec les enfants. Parce que là, plus qu'ailleurs, il est essentiel que l'analyste se décale par rapport à la demande angoissée des parents et qu'il écoute l'enfant qui parle régulièrement sur un autre registre et qu'il fasse le pari que c'est là qu'il y a quelque chose à entendre, hein, et non pas dans la demande de remise sur les rails des parents. Donc il faut cette supposition minimale faite par l'analyste qu'il a affaire à un sujet qui calcule, qui chiffre et qui se fait entendre derrière ce qui se dit. C'est sans doute cette supposition qui agit sur celui qui vient nous voir et favorise l'émergence du sujet supposé savoir à la bonne place. Mais cette première supposition qui vient de l'analyste n'est pas symétrique à celle qui va naître chez l'analysant. Parce que si elle lui était symétrique, elle mettrait le futur analysant à la place de l'héroménos, c'est-à-dire l'objet chéri. Mais ça, ce n'est qu'un semblant. Ce n'est qu'en apparence que nous accueillons à ce titre celui qui vient nous voir en lui laissant croire que c'est pour lui qu'on est là. Ce n'est pas au titre de l'héroménos que le patient se fait analysant. C'est à partir de l'érastès, c'est-à-dire celui qui situe dans l'autre son manque à être. C'est ce qui me fait dire que le désir de l'analyste, qui est à l'origine de cette première supposition qu'il y a un sujet qui veut se faire entendre au-delà de ce que l'on nous dit, ce désir de l'analyste ne doit pas être de l'ordre de l'éros. Si on voulait le situer dans l'ordre de l'éros, alors il faudrait considérer que l'analyste est primitivement dans la position de l'érastès et qu'il considère celui qui vient le consulter comme un objet à posséder, à s'approprier du fait de sa valeur, c'est-à-dire l'héroménos. On sait bien, au travers de notre propre expérience et celle des collègues qui nous demandent de contrôler leur pratique, qu'à certains moments cruciaux, il est important que l'analyste puisse faire signe à son analysant qu'il peut le perdre. Comment pourrait-il prendre le risque de le perdre si le désir de l'analyste était du registre de l'éros et visait un objet aimé? Normalement, le désir dans l'ordre de l'éros est motivé par la valeur de son objet. Ce modèle me semble pas convenir pour le désir de l'analyste. C'est pourquoi je me risquerais à évoquer l'amour version agapé. C'est un peu risqué, à vrai dire, parce que c'est une notion qui est réservée à l'amour divin, qui a été inventée par un pasteur luthérien. C'est la thèse astucieuse d'Anders Nigren, qui oppose Eros, l'amour humain, qui se dirige vers un objet paré de toutes les qualités, et l'agapé, qui est le flux de l'amour divin, qui ne préjuge pas de la valeur de l'objet qu'il vise. Lorsque l'agapé tombe sur un objet quelconque qui n'a primitivement aucune valeur, elle le transforme secondairement en objet aimable. Quand j'ai lu ce travail de Nigren sur Eros et Agapé il y a quelques années, je me suis dit que cette notion d'agapé devrait pouvoir nous servir à cerner ce qui se passe dans la transmission de la psychanalyse. Je vous dis ça avec quelques précautions et non sans réticence, car loin de moi l'idée que le psychanalyste est à se prendre pour le bon Dieu. Mais enfin, après tout, Dieu, c'est la figure emblématique du sujet supposé savoir. Il n'a pas attendu la naissance de la psychanalyse pour se manifester de cette façon-là. On pourrait donc penser le désir de l'analyste comme source d'agapé. qui, rencontrant celui qui le consulte, le transmute en analysant en qui alors parle le sujet supposé savoir. D'où l'idée qu'il ne peut y avoir d'analysant sans un désir d'analyste. C'est le sens de la formule exigeante de Lacan : il n'y a de résistance que de l'analyste. La résistance, c'est vous qui l'a provoquée, dit Lacan. Quand vous pressez votre patient d'avancer alors qu'il est sur un point d'inertie. Il dit ça dans le séminaire 2. En fait, ça équivaut à dire que le patient résiste à la pression exercée par l'analyste. Et il y a plusieurs types de pression. Ça peut être la pression de la demande de l'analyste, demande trop pressante parfois. Quand elle vient trop tôt et qu'elle émane de l'analyste comme sujet et non pas de l'analyste dans sa fonction d'objet. Alors elle peut conforter le patient dans l'idée qu'il incarne l'héroménos pour l'analyste. Ce qui peut provoquer chez le patient un amour de transfert qui va paralyser le travail analysant. Nous n'avons pas à presser un sujet d'entrer dans l'expérience. Ce qui doit le presser, ce n'est pas la demande de l'analyste, ce sont plutôt les exigences imposées par la logique de l'objet qu'il a déposé chez l'analyste. D'où l'importance des entretiens préliminaires pour laisser faire ce transfert, ce dépôt d'objet chez l'analyste. Mais il peut y avoir une autre pression. Ça peut être la pression de l'analyste qui veut convaincre. Si l'analyste est sur ce versant de l'endoctrinement, il favorise la position hystérique d'opposition, de résistance au savoir du maître. Mais au départ, c'est la résistance de l'analyste qui s'exprime dans cette voie de la maîtrise. Et tout au long de son enseignement, Lacan stigmatise la résistance de l'analyste. Il va même jusqu'à opposer la résistance de l'analyste à la bonne volonté de l'analysant. La bonne volonté de l'analysant ne rencontre jamais rien de pire, dit-il, que la résistance de l'analyste. Ça, c'est dans l'Insu qu'il dit ça. Dans le séminaire sur le moi, après avoir mis au point son schéma L, Lacan situe la résistance de l'analyste comme résistance de l'imaginaire, c'est-à-dire résistance du moi auquel participe l'analyste, dans la mesure où il ne s'efface pas comme autre sur l'axe de la relation imaginaire. Vous savez que normalement, l'analyste doit faire le mort à ce niveau-là, il doit y avoir personne. On peut en déduire que dans cette optique, la résistance de l'analyste, c'est la résistance à occuper le lieu de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire résistance à se soumettre aux effets de la parole, et Lacan, à cette époque-là, parlait de parole fondamentale, alors qu'un peu plus tard, il parlera plutôt de soumission à la loi de l'inconscient, et il me semble qu'au point où nous en sommes du déchiffrage de l'enseignement de Lacan, on pourrait dire maintenant soumission au fond aux effets de la langue. Pour qu'advienne l'analysant, il faut que l'analyste soit lui-même dans cet état de soumission aux effets de la langue. C'est d'ailleurs ce que Theodor Reich, un des élèves les plus doués de Freud, comme disait Lacan, c'est ce que Theodor Reich appelait écouter avec la troisième oreille. Il faut lire ce texte, très intéressant. En définitive, le désir de l'analyste suppose que l'analyste soit toujours analysant, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il soit toujours dans un rapport transférentiel avec un collègue qui voile pour lui la méprise du sujet supposé savoir, mais plutôt qu'il y ait toujours chez lui une envie de gagner du terrain sur son « je n'en veux rien savoir ». Et donc la question qui vient logiquement est la suivante, quelle différence il y a entre l'analysant dans l'expérience et l'analysant après la cure? Lacan disait, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, que dans sa fonction d'enseignant, il était dans une position analysante. Il voulait par là se démarquer d'une position de maître qu'on lui reprochait. Qu'on lui reprochait au prétexte que cela ne pouvait que produire une résistance chez ceux de ses analysants qui venaient l'écouter. Alors, il s'en explique, si vous cherchez, ça c'est dans les problèmes cruciaux, il s'en explique. Et il, c'est une idée qu'il contrait en disant qu'il enseignait comme analysant. Cela ne voulait pas dire pour autant qu'il pensait enseigner à partir du discours de l'hystérique. À mon sens, la position de Lacan, analysant dans son séminaire, ce n'est pas non plus la position de l'agent du discours analytique. C'est la position du sujet divisé mis au travail par l'objectita, agent du discours analytique. Et là, je rejoins ce que Sol soulignait lors de votre première rencontre, à savoir que l'analysant, c'est avant tout celui qui occupe non pas la place de l'agent, mais la place de l'autre dans le discours analytique. L'analysant n'est pas agent d'un discours. Il n'y a pas le discours de l'analysant. Il y a le discours hystérique et il y a le discours analytique. L'analysant n'est pas agent d'un discours, il est sous l'effet du discours de l'analyste. Donc, pour en revenir à la position analysante de Lacan dans son enseignement, je dirais que ce qui mettait Lacan au travail, c'était son auditoire. Son auditoire qui l'attendait semaine après semaine, année après année. Et moi, j'ai toujours été frappé par les petites remarques sibyllines de Lacan du style « Ah, vous êtes encore là. J'aimerais que vous soyez moins nombreux. J'ai rêvé qu'il n'y avait personne. » On pourrait penser à une sorte de coquetterie, mais moi je ne crois pas qu'il s'agisse de cela. Cette plainte récurrente que Lacan exprimait meso voce, c'est pour moi l'indice de la place qu'occupait pour lui son auditoire, c'est-à-dire place de l'objectita, agent du discours analytique, qui le mettait au travail analysant dans son séminaire. Qu'est-ce qui distinguerait donc la position de l'analysant dans la cure de la position de l'analysant devenu analyste à l'issue de son analyse? C'est là que j'ai envie de reprendre le dialogue auquel Miyuki vient de faire allusion sur la croyance à la fin de la cure. Pendant la cure, l'analysant fait de l'analyste, disons, son partenaire symptôme, en ce sens qu'il croit que l'analyste est le sujet supposé savoir qui va pouvoir dire la vérité cachée qui fait souffrir. Cette méprise est nécessaire. Elle est nécessaire tout au long de la cure, tant que l'analysant a besoin du désir de l'analyste pour soutenir sa croyance en l'inconscient. La fin de la cure ne peut se concevoir que comme dessillement par rapport à la méprise du sujet supposé savoir, certes, mais cela n'implique pas qu'à l'issue de la cure, le sujet cesse d'être dupe du savoir inconscient, parce que quand même, ça serait le comble de la canaillerie qu'un sujet qui ne croit plus en l'inconscient se prête à faire l'analyse pour un couillon qui veut y croire. Que quelque chose soit modifié au niveau de la croyance au sujet supposé savoir, à la fin de la cure, oui, certainement, mais pas dans le sens d'un désabonnement à l'inconscient. Donc, pour résoudre un peu cette question paradoxale, je me suis dit que, finalement, à la fin de l'expérience, le sujet n'a plus besoin de l'artifice du transfert pour admettre la marque qu'il a reçu de l'autre, de ses mots, de leur poids de jouissance. Mais étant donné que cette marque est à la lisière de tout savoir articulable, la fin de la cure devrait coïncider avec le deuil fait par l'analysant que quiconque puisse l'articuler à sa place. Ce deuil soulage, ce deuil libère la parole. libère l'énonciation de ce poids de jouissance qui l'entravait. Et c'est quelque chose que l'on perçoit immanquablement chez celui qui parle depuis cette place, de cette place où il est orphelin, de cet autre auquel il avait confié la fonction de lui couper le sifflet. Cette question du devenir de la position analysante après la cure rejoint pour moi la question du dénouement du transfert. J'utilise ce terme en référence au terme espagnol « desenlace », hein, qui est le terme qui est contenu dans le titre de notre rencontre internationale. « Desenlace » qui dit bien autre chose que « déliaison ». « Desenlace », c'est l'issue, c'est la façon dont un processus, une histoire s'achève. Il me semble qu'évoquer le dénouement du transfert est plus juste que de parler de sa liquidation. À une certaine époque, dans nos milieux, hein, dans cette école qui revient dans nos lapsus tout le temps, on parlait beaucoup...
Hein, qui fut la nôtre.
Qui fut la nôtre, bien sûr. Fulano en espagnol, c'est un tel. À une certaine époque, dans nos milieux, on parlait beaucoup du transfert de travail comme issue du transfert dans la cure. Et en fait, en consultant mes bases de données, je me suis aperçu que Lacan avait introduit ce terme une seule fois. C'est dans son acte de fondation. Il n'en a plus jamais parlé par la suite. Et quand il en parle, écoutez bien, c'est en ces termes. L'enseignement de la psychanalyse ne peut se transmettre d'un sujet à l'autre que par les voies d'un transfert de travail. Les séminaires, y compris notre cours, ne fonderont rien s'ils ne renvoient à ce transfert. Cette présentation du concept de transfert de travail est très précise. Elle n'implique aucun phénomène de groupe. Aucune orientation autre que celle qui découle du transfert dans la cure de chacun. Donc je me suis dit que le terme de transfert de travail mériterait d'être réexaminé. Jusqu'à présent, nous avons parlé du transfert de savoir. Il s'agit de situer dans l'autre un savoir supposé sur ce que nous ne savons pas dire. Ensuite, j'ai évoqué un primordial transfert d'objets. Le patient commence par déposer chez l'analyste l'objet qu'il tourmente, et c'est à partir de cet objet que va naître la supposition d'un savoir dans l'autre. Voyez que le transfert d'objets et le transfert de savoir œuvrent dans le même sens, c'est-à-dire de l'analysant vers l'analyste. Alors que pour le transfert de travail, dans l'introduction qu'en fait Lacan, on comprend que ce qui se transmet dans la cure, c'est aussi le travail, et il se transmet de l'analyste vers l'analysant, qui à la fin de la cure n'a plus besoin de la présence de l'analyste pour poursuivre sa tâche analysante. Il n'y a donc aucune raison pour que le transfert de travail conduisent tous les analystes d'une même communauté à travailler dans le même sens, imitant le modèle d'un travailleur idéal qui ferait figure de l'autre, support d'un transfert collectif. À mon sens, le transfert de travail est autre chose aussi que le transfert à l'œuvre de Freud ou à l'enseignement de Lacan. Il ne suffit pas de supposer un savoir à Freud ou à Lacan, ni de s'appuyer sur leurs travaux pour témoigner d'un transfert de travail. Le transfert de travail suppose que chacun s'appuie sur son propre travail, que chacun transfère sur son propre travail fondé sur le transfert qui s'est établi dans son parcours analytique. C'est-à-dire que chacun suppose qu'un savoir puisse surgir de son propre travail et du partage de ce travail avec le travail de quelques autres. ce transfert sur son propre travail, si vous y réfléchissez bien, c'est le moteur essentiel du témoignage de passe. Le passant travaille sur sa propre expérience parce qu'il suppose qu'elle recèle un savoir inédit. Et si son témoignage réussit à travailler les passeurs, et si le travail des passeurs rend possible le travail du cartel, eh bien, c'est à mettre au compte d'un transfert de travail. Le transfert sur son propre travail et sur celui de quelques autres, c'est aussi ce qui peut se passer dans le cadre d'un cartel. C'est-à-dire que finalement, les psychanalystes peuvent utiliser tous ces dispositifs que l'école met à leur disposition pour se maintenir dans la position du travail analysant, qui est une condition nécessaire pour soutenir le désir de l'analyste, qui à son tour est une condition nécessaire pour qu'il y ait encore et toujours des analysants.